Voilà, bonjour, bonsoir, chers amis. Nous sommes le 2 juin et nous faisons aujourd'hui le 11e portrait de ces portraits philosophiques du Christ. La fois passée, nous avons pris Bergson et Blondel. Je le dis parce que je vais commencer par une citation concernant Bergson. Et la fois prochaine, nous prendrons donc Thiers de Chardin. Et aujourd'hui, Simone Veil. Simone Veil. Vous avez reçu par mail vos feuilles de route, le portrait, plusieurs choses d'ailleurs sur ce portrait. Regardons d'abord le portrait que vous avez ici. Eh bien, vous voyez que c'est sa carte de laissez-passer comme rédactrice pour la France combattante. Elle est donc à ce moment-là à Londres, comme c'est indiqué là, le 30 mars 1943. Et elle va décéder le 24 août 1943. Donc très peu de mois après ceci. 4 ou 5 mois après ceci, elle va décéder. À l'âge de 44 ans. Elle est née en 1909. Elle va décéder en 1943, donc en pleine guerre. Alors je commence par une citation de Peggy. Peggy qui... Le père Jean-Marie Hénaud nous l'a rappelé la dernière fois, s'est converti notamment en lisant la philosophie de Bergson. Peggy dit ceci, « Une grande philosophie est celle qui introduit une inquiétude, qui ouvre un ébranlement. » Une grande philosophie, ça vous secoue, et ça vous met dans une disposition à faire quelque chose d'autre que ce que vous faites d'habitude. À vous élever, à partir, à l'action, à réfléchir. Une grande philosophie est celle qui introduit une inquiétude, qui ouvre un ébranlement. Eh bien, je crois que c'est vraiment le cas de Simone Veil. C'était aussi le cas de Kierkegaard, je crois, mais bon, il était un peu plus éloigné dans le temps. Il appartenait à un contexte, culturel un peu différent. Mais il y a des parallèles. Voilà. Alors, je vais d'abord vous raconter cette vie très mouvementée et très brève de Simone Veil. Quelques dates, quelques lieux. Eh bien, d'abord, elle est née à Paris en 1909 et elle restera à Paris jusqu'en 1931, pratiquement. Sans bouger, en étudiant. Son père est médecin, juif, originaire de Strasbourg. Sa mère est originaire d'Anvers, juive également. Et ils ont deux enfants, André, qui est né en 1906, André, dont vous avez la photo ici en dessous, justement. Vous avez les deux enfants qui sont là. Simone, qui a 14 ans, je crois, ici, et son frère, qui en a 17. Et voilà, elle est souriante. Lui, il est déjà dans un bouquin. Mais ils sont aussi dans la nature. Donc, elle est professeure de philosophie en 1931. Et donc, comme ça se fait en France, il faut commencer en donnant des cours de philosophie en terminale. Et donc, elle a 5 nominations différentes dans 5 endroits différents de France. Donc, elle va faire des déplacements pour enseigner la philosophie principalement à des jeunes filles dans des lycées en terminale. Mais souvent, elle est malade aussi. Pendant ses engagements comme professeur de philosophie, donc elle n'arrive pas toujours au terme de l'année, etc. En fait, c'est compliqué. Pendant ces années, 1931-1939, elle fait aussi quelques voyages importants en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie. En 1939, eh bien, bon, la guerre commence, la poursuite des Juifs commence, etc. Donc, la famille quitte Paris pour descendre vers le sud, par Vichy, Toulouse, puis s'installe assez longuement à Marseille. À Marseille, c'est une période très productive au niveau écriture pour Simone Veil, ces 3 années à Marseille. Son frère marié quitte avec sa femme pour aller aux États-Unis, et elle reste avec ses parents, et puis elle quittera aussi avec ses parents un peu plus tard, via Casablanca, où elle en profite pour écrire encore un livre ou deux, sans doute. Et puis elle va à New York. Mais de New York, elle veut revenir pour lutter pour la France libre. Donc elle reprend le bateau, je suppose. Elle va à Londres dans l'espoir de pouvoir rentrer en France, accomplir des missions. Mais elle sera prise par la maladie et elle va mourir le 24 août 1943 à l'âge de 34 ans. Sa condition juive, donc, lui vient, est très claire. Elle lui vient de ses deux parents. Hein. Un père venant de Strasbourg, une mère venant d'Anvers. Ce sont des libéraux non pratiquants. Partout où elle est, Simone Veil ne cesse d'étudier, de lire, d'écrire, de publier dans des revues, des pamphlets, dans des revues syndicalistes, etc. Actuellement, il y a 13 gros volumes comme cela, hein, de ses œuvres complètes. Je ne sais pas si c'est achevé. Bien sûr, elle n'a pas tout écrit, il y a beaucoup d'introductions, il y a des notes, des mises en contexte, etc. Mais quand même 13 volumes comme ceci, hein, de ses œuvres. Donc elle a énormément écrit. On se demande comment elle faisait. Elle écrivait à grande vitesse. D'ailleurs, quand on voit ses brouillons, eh bien, en effet, il n'y a pas beaucoup de ratures. Elle ne perd jamais son temps, jamais une journée, jamais une demi-journée. Et l'incapacité de concentration intellectuelle très impressionnante. Par exemple, tel jour à Marseille, eh bien, le matin, elle assiste à un procès au tribunal. Je ne sais pas pour quelle affaire, mais enfin, c'est quand même une affaire dangereuse et difficile. Et l'après-midi, elle va à la soutenance de thèse de philosophie de M. Gaston Berger. Gaston Berger, qui est le papa de Béjart. Et une thèse sur Husserl. Bon, facile, quoi. Hein, dont elle fait évidemment le compte-rendu pour les Cahiers du Sud. Voilà. Ça, c'est une journée à Marseille. Vous vous rendez compte, le matin dans le danger du tribunal, et l'après-midi dans la philosophie, et le soir elle écrit son compte-rendu. Partout où elle est aussi, elle ne cesse de militer. C'est une militante. Deux engagements forts au cours de cette vie, deux engagements très forts. Une année en usine, à ce moment elle arrête son enseignement de philosophie, elle va travailler comme ouvrière dans plusieurs usines, dont notamment... chez Renault, elle participe à une grève et ça lui donne l'occasion évidemment d'écrire un livre, enfin un petit livre. Et son engagement dans la guerre d'Espagne, elle va aux côtés des républicains en Espagne pour lutter contre Franco. Mais elle doit revenir parce qu'elle a un petit accident domestique, elle est brûlée par de l'huile bouillante, donc elle doit rentrer à la maison. Deux engagements forts, et elle s'apprêtait à un troisième engagement fort qui était sans doute entrer dans la résistance en France. Elle était à Londres pour passer en France. Son frère André, ça vaut la peine d'en dire un mot évidemment, 2-3 ans plus âgé qu'elle, eh bien lui, il est décédé en 1998, donc bien âgé, 92 ans, à Princeton. Princeton, c'est l'université de Einstein. Einstein y a été de 1935 à 1955. Eh bien, André, il doit arriver là en 42-43 et il fera une carrière de mathématicien. C'est un grand, grand mathématicien qui est cofondateur du mouvement Bourbaki. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement Bourbaki. C'est un auteur polycéphale, comme dit le dictionnaire. Hein. C'est-à-dire, plusieurs mathématiciens se mettent ensemble et écrivent un immense ouvrage de référence. On refond toutes les mathématiques à partir de Hilbert et de la logique formelle connue à cette époque, et ainsi de suite. Et donc, c'est signé Bourbaki. Et Bourbaki, c'est personne. Enfin, c'est un autre personnage dans une autre histoire, mais voilà, c'est ce groupe de mathématiciens. Ils font, par exemple, des petits congrès entre eux, et Simone Veil y est. Elle comprend, elle pose des questions, et d'ailleurs elle va écrire aussi là-dessus, sur la théorie quantique et tout, parce qu'elle suit très bien son frère. Son frère aussi est un militant, parce qu'à un moment donné, eh bien, ils ont fait une école d'éducation sociale, en faisant de l'alphabétisation à Paris, lorsqu'ils étaient jeunes. Et lui-même sera incarcéré à la prison du Havre, pour insoumission. Je ne connais pas les détails, mais il a été en prison. Et pendant ce temps-là, évidemment, petite correspondance avec sa sœur à propos des problèmes mathématiques, entre autres. Quoi. Multiples rencontres et correspondances. Alors j'ai mis là un peu en vrac. Hein. À Marseille, elle rencontre Gustave Thibon. Elle va travailler dans sa ferme agricole. Hein. Lanza del Vasto, donc, qui avait amené un peu l'hindouisme en France. Paul Valéry, elle a une correspondance avec Paul Valéry, elle le cite, il est à tu et à toi avec Paul Valéry. le père Perrin, un dominicain qu'elle rencontre et avec lequel elle communique très vite. C'est une de ses caractéristiques, hein. Elle rencontre des personnages étonnants et 15 jours après, ils ont une correspondance incroyable sur les sujets les plus profonds et très très personnels. Joé Bousquet également, qui est un poète infirme, qui a été blessé aux jambes à la guerre précédente, hein, à la guerre 14-18, et donc il vit infirme dans une grande souffrance, mais il est poète. Elle le rencontre, évidemment par hasard, hein, c'est toujours elle, et tout de suite, eh bien, il se lie d'amitié. Je crois qu'il y a cette lettre très importante où elle parle des choses les plus profondes. Et elle trouve dans cet homme malheureux, évidemment, hein, le malheur est un concept de Simone Weil très important, comme on va voir, elle trouve dans cet homme une caisse de résonance pour tout ce qu'elle porte, hein, sur la question du malheur. Paul Couturier, qui est un prêtre de Lyon, qui a lancé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Bon. Maurice Schumann, oui, une correspondance avec Maurice Schumann. Gaston Berger, je vous l'ai dit, hein, philosophe, le papa de Maurice Béjart. Albert Camus, je ne sais pas si elle l'a rencontré, mais en tout cas, Albert Camus a beaucoup d'estime pour elle et parle d'elle. Elle écrit à Bernanos, lorsque sort son roman Les grands cimetières sous la lune. Elle lui écrit pour expliquer que voilà, qu'elle est d'accord, d'ailleurs, ceci, cela, etc. Elle écrit au ministre de l'Instruction publique pour protester contre le statut des Juifs. Donc elle n'a peur de rien. Hein. Elle écrit tout de suite à qui de droit, hein, pour entrer en dialogue et même en conflit. Alors voilà, je vais reparcourir un peu cette biographie en donnant quelques autres détails et en montrant quelques photographies. Parce qu'il y a un dossier Simone Weil avec des photos qui sont intéressantes. Donc, elle entre à Cagnes, comme on dit, hein, au lycée Henri IV, et elle a comme professeur un certain Alain-Émile Chartier, qui est un philosophe, et qui l'initie vraiment à la philosophie. Voilà Alain Chartier qui donne cours. Hein, bon, je ne sais pas si Simone Weil est sur cette photo, mais peu importe, c'est donc le philosophe Alain Chartier qui a eu beaucoup d'importance pour elle, pour l'éveiller à la philosophie. Ensuite, elle passe à l'école normale supérieure, rue de Ulm, donc comme Bergson d'ailleurs, comme Blondel, comme son frère 3 années avant, en section scientifique, elle est en lettres, et puis elle commence à militer. Et notamment, elle est appelée par les professeurs la Vierge Rouge, hein, parce qu'elle est communiste, mais elle est contre Staline, bien sûr, mais elle a sa manière de voir les choses, elle est souvent dans les syndicats. Et la Vierge Rouge, donc, enseigne la philosophie à 5 endroits, alors je vous les cite comme ça, puis Envelay, Auxerre, Roanne, Bourges et enfin Saint-Quentin. Donc elle voyage un peu partout en France pour donner ses cours, elle s'installe quelque part pour donner ses cours de philosophie. Après son voyage en Allemagne en 1932, ça veut dire à la veille de l'arrivée au pouvoir de Hitler, eh bien elle écrit dans la revue La Révolution prolétarienne, elle écrit un article sur l'Allemagne en attente. Voilà, elle a bien compris que là, il allait se passer des choses très dangereuses. Hein. Elle fait une analyse politique. Hein, elle publie ça dans cette revue donc, qui s'intitule La Révolution prolétaire. Dans les années de 34-35, l'année 34-35, donc elle travaille en usine, notamment à la chaîne. Travaille à la chaîne, voilà, hein, une photo. Elle participe à la grève, la grande grève des usines Renault. Et à chaque fois, ça lui donne matière à réflexion et à écriture, puisqu'elle publie ensuite ce petit livre que je vous ai dit, Sur le tas, Souvenir d'une exploitée, par Simone Gallois. Donc ça, c'est un pseudonyme qu'elle utilise. Donc voilà, c'est son expérience, hein, son expérience comme ouvrière. Je vous ai dit que elle participe à des congrès, elle attaque le stalinisme à un congrès à Reims. Elle voyage en Espagne, elle participe à un congrès de mathématiques, hein, du groupe Bourbaki, avec son frère. Et voilà une photo où on voit ces mathématiciens dans une espèce de maison de campagne, hein, où ils sont là, habillés un peu n'importe comment. Son frère est là, elle aussi. Et voilà, elle participe à ce congrès. Ce sont des gens qui travaillent sur des tables en bois et sur des troncs d'arbres, hein, mais qui sont vraiment le nec plus ultra de la mathématique de l'École normale supérieure de Paris à l'époque. À Marseille, elle rencontre Lanza del Basto. La voilà, une terrasse de café avec Lanza del Basto. Évidemment, à Marseille, il y a le danger de la chasse à l'homme des Juifs. Et voilà donc un arrêté relatif au recensement des Juifs à Marseille. Voilà. Et donc, c'est bien pourquoi son frère et puis elle et ses parents ont dû quitter Marseille en toute hâte parce que... ça commençait à ne pas être confortable. Je vous ai dit les 5 endroits où elle avait donné cours de philo. Alors maintenant, je vous dis les 3 endroits où elle a eu un contact avec le christianisme et plus précisément avec le catholicisme. D'abord, au Portugal, vous avez lu le texte peut-être que je vous ai donné au Portugal. Bon, on va relire ce texte, on va essayer de prendre ce temps. Et ça, sa première expérience spirituelle avec le christianisme. Ensuite, à Assise, elle voyage, elle va à Assise, et dans la petite chapelle de Saint-François, pour la première fois, elle se met à genoux. Alors, je ne sais pas, les Juifs, je crois, ne prient pas à genoux, ils prient debout, ou bien je ne sais pas comment. Mais est-il somme aussi s'appelait elle-même la fille qui ne savait pas se mettre à genoux. Et le jour où elle s'est mise à genoux, ça a été un événement spirituel extrêmement important. Et troisième expérience, à Solesmes, pendant la semaine sainte. Alors ce qui est intéressant, c'est que, aussi bien au Portugal qu'à Solesmes, c'est à travers le chant qu'elle est attirée. Il y a l'expérience de la beauté du chant, et des paroles évidemment. Mais le chant l'attire particulièrement. Voilà, donc elle a travaillé en usine, elle a aussi travaillé comme paysanne dans la ferme de Gustave Thibon. Et finalement, elle part à New York, puis elle revient à Londres, et c'est là qu'elle va essayer de militer, mais elle sera prise par une maladie, c'est une tuberculose diagnostiquée, et donc pratiquement elle décide de ne pas se soigner, et de ne plus s'alimenter, et donc elle meurt le 24 août 1943, et voilà donc l'inscription de sa tombe. Elle est enterrée dans un cimetière chrétien, dans la section réservée aux catholiques, parce que vous savez que les catholiques sont minoritaires en Angleterre, les anglicans, et bien voilà sa tombe, le 24 août. Voilà donc quelques photos, voilà un petit résumé de sa vie. Maintenant, je vais entrer davantage dans sa pensée, si on veut. C'est une femme aux intérêts multiples. Multiples, c'est une intelligence extraordinaire. C'est une intelligence qui explose de toutes parts. En philosophie d'abord, à laquelle elle est initiée par ce philosophe Alain, Émile Chartier, en Cagne. Cagne, ce sont des classes préparatoires pour l'École normale supérieure, et on entre là sur concours, etc. Elle est la seule fille admise dans sa section. Et puis, donc, elle fait cette école supérieure, où enseigne Braunschweig. Braunschweig, qui n'est pas croyant, c'est un juif aussi, mais qui est l'éditeur des pensées de Pascal. Donc, c'est un spiritualiste, non-croyant, Léon Braunschweig. Les langues, bon, elle connaît le grec, mais vraiment comme ça, C'est incroyable. Elle lit l'Iliade, elle écrit des articles sur Homère, pendant qu'elle écrit aussi un article sur le syndicalisme et tout, ça va de pair. Donc elle connaît le grec parfaitement, et puis à ce moment, elle s'intéresse à l'hindouisme, elle veut lire la Bhagavad Gita, car cela ne tient, elle apprend le sanskrit. Elle doit bien avoir le texte sous les yeux, Et donc on voit aussi, elle dessine dans ses écrits, elle fait toutes sortes de dessins, elle recopie souvent des petits frontons grecs, des petits frontons en sanskrit, etc. Donc voilà, ses écrits sont pleins de dessins qui illustrent toutes sortes de choses, des hommes qui souffrent, etc., hein, des silhouettes très expressives, mais aussi donc des formules mathématiques, des vers d'Homère, etc. Les langues, les sciences, elle est très calée en mathématiques, hein, très calée. Par exemple, eh bien, dans ses carnets, on trouve, il faut aller à la réunion du syndicat, machin, et puis le Christ a souffert parce que ceci, etc. Et puis Diophante, mathématicien grec, hein, mort en 410 après Jésus-Christ, ne connaissait probablement pas l'équation du troisième degré. Hein. Ce qui lui manquait, c'était ceci ou cela par rapport au deuxième degré, parce qu'il n'avait pas compris qu'on pouvait avoir deux inconnus dans la même équation, le même système d'équation. Bon, elle fait toutes sortes de réflexions de très haut niveau, et comme je vous ai dit, quand son frère était en prison, eh bien, il s'est changé des lettres où il y avait des formules mathématiques. Diophante, donc, elle lit en grec, mathématicien grec, elle lit, hein, le mathématicien grec. Mais elle lit aussi Max Planck, qui est un énorme physicien, hein. Eh bien, il vient de publier une espèce de somme de physique. Eh bien, elle lit ça, elle en fera un compte-rendu de 250 pages. Donc, réflexion à propos de la théorie des quantas, 1941. Tout ça pressé par la chasse aux juifs et tout. Action sociale. Donc, bien sûr, intellectuelle, mais action sociale. La condition ouvrière l'a toujours fascinée, intéressée. Déjà, quand elle était étudiante avec son frère, donc elle avait formé un groupe d'alphabétisation, elle donnait des cours destinés au peuple, aux gens qui ne savent pas lire et écrire. En 1933, elle rencontre Trotsky à Paris. Elle l'héberge Trotsky, hein, qui était en fuite par rapport à... au contre, il était soi-disant un contre-révolutionnaire, etc. Il sera finalement tué, je crois, au Mexique. Hein. Alors, l'année suivante, 34-35, eh bien, elle va travailler dans différentes usines, dont chez Renault. Elle était assez malhabile. Bon, c'était une intellectuelle, évidemment. Mais elle voulait absolument faire les choses comme elle pouvait. Elle était manœuvre, elle était fraiseuse, elle avait quand même appris des choses. Et là, elle écrit « Souvenir d'une exploitée ». Je vous ai montré le petit livre. Elle a énormément d'écrits historiques et politiques, un engagement incroyable. Pour partager le sort des malheureux, parfois elle s'expose à la faim. Son journal d'usine décrit de manière poignante les ravages produits sur l'être humain par un travail monotone, arbitraire et dangereux, le travail à la chaîne. Il y a un bruit incroyable. Hein. Ce contact avec le malheur, écrit-elle, a détruit ma jeunesse. Voilà, ma jeunesse est partie dans cette année à l'usine. La politique de la condition ouvrière chez ceux qui ne la connaissent pas, comme Trotsky, dit-elle, et sans doute Lénine, est une sinistre rigolade. Tous ces politiciens, tous ces théoriciens, Marx y compris, hein, qu'elle critique, eh bien, c'est une sinistre rigolade. Ils n'ont jamais été travaillés sur le terrain. Elle veut travailler sur le terrain pour savoir, hein, de quoi il s'agit. Quelqu'un a dit, mais je n'ai plus retrouvé la citation, mais c'est un philosophe, je crois, quelqu'un a dit, je n'ai jamais rencontré une personne aussi cohérente entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Il n'y a pas de duplicité chez elle, il n'y a pas de réserve, elle ne parle pas selon son interlocuteur en se disant, il n'est pas du même avis que moi, peut-être qu'il ne va pas être content et tout ça. Non. Selon sa propre formule, toute pensée qui ne passe pas à l'action est une mauvaise pensée. Toute action qui ne porte pas de fruit est une mauvaise action. Voilà, il faut la cohérence. Hein, la cohérence. L'action est l'action efficace. Mais je vais surtout parler maintenant de la veine religieuse et mystique. Donc il y a eu trois contacts avec le catholicisme. Et donc ce sont les feuilles qu'on va lire en terminant cette heure de cours. Sa première expérience, c'est donc d'entendre des chants religieux au Portugal. Elle se rend compte que ces chants sont déchirants, hein, et qu'ils sont vraiment chantés par des femmes, de pêcheurs sans doute, hein, qui tournent autour des barques et qui déplorent la mort de l'un de l'autre, de leur mari. Et ce sont des cris déchirants, des chants déchirants, et elle se rend compte là qu'elles sont parfaitement, totalement chrétiennes, et elles sont chrétiennes parce qu'elles sont dans ce malheur, hein, dans ce malheur énorme, et qu'elles vivent comme des esclaves, hein, et que le christianisme c'est une religion d'esclaves, et elles se sentent entièrement esclaves avec eux. Être chrétien, c'est connaître le malheur, hein. C'est communier au malheur de l'humanité. Mais pas seulement, il y a aussi la beauté du monde. Hein. La beauté du monde et le malheur de l'homme, ce sont les deux aiguillons qui percent l'âme, hein, et qui nous touchent au plus profond et qui nous permettent de communiquer avec Dieu. Si l'on ne connaît pas la beauté du monde et en même temps le malheur, et la beauté rend le malheur encore plus déchirant, eh bien on ne peut pas connaître Dieu. Vous voyez donc que c'est une expérience assez kénotique. Hein. Ce n'est pas du tout un panchristisme majestueux, etc., comme on en aura un peu chez Terre de Chardin. Alors, il y a l'expérience de sa lecture d'un poème de George Herbert, qui est un poète métaphysicien anglais. Alors, vous avez aussi ce poème sur votre feuille. En lisant ce poème, donc je vais vous lire quelques lignes. Dans la lettre au père Perrin, qui s'appelle Autobiographie spirituelle, dont j'ai extrait les trois pages que vous avez là, elle rapporte qu'elle avait appris par cœur ce poème. Elle ajoute, c'est au cours d'une de ses récitations que le Christ lui-même est descendu et il m'a prise. Alors qu'elle dit qu'elle ne cherchait pas Dieu, qu'elle n'a jamais cherché Dieu, qu'elle n'a jamais voulu prier, qu'elle se méfiait de la prière, de sa puissance d'autosuggestion, elle dit « Dieu est venu, il m'a prise ». Elle dit d'ailleurs « il ne dépend pas de l'homme de croire en Dieu, c'est Dieu qui donne la foi. Mais il dépend de l'homme de ne pas croire aux faux dieux, aux idoles, de ne pas s'adonner aux idoles. Ça c'est le travail de l'homme, de rejeter les idoles, de rejeter le mensonge des idoles. Hein, je vous ai dit son extrême exigence par rapport à la vérité, la clarté, la cohérence, etc. Il est de notre ressort à nous, hein, de rejeter les idoles qui se présentent à nous. Mais ça ne dépend pas de nous, finalement, de croire ou pas. C'est Dieu qui donne, par grâce, de croire. C'est au cours d'une de ces récitations donc, que le Christ lui-même est venu et descendu, m'a prise. Dans la lettre à Joël Bousquet, ce poète blessé, là, elle précise « Depuis cet instant, le nom de Dieu et celui du Christ sont mêlés de plus en plus irrésistiblement à mes pensées. » Ce qui se trouve de spécifique ici dans cette expérience, c'est l'amour. Ce poème s'appelle d'ailleurs « Love », hein, « Amour ». Le rôle que joue le poème n'est pas fortuit. « Je m'efforçais d'aimer, » dit-elle, « mais sans me croire le droit de donner un nom à cet amour. » Voilà, elle n'était pas croyante, elle ne cherchait pas Dieu, dit-elle, hein, mais elle voulait aimer. Mais je ne me croyais pas le droit de donner un nom à cet amour. Ce qu'il y a vraiment de nouveau dans cette rencontre, c'est le nom. Le nom de Dieu et celui du Christ. Reçu miraculeusement en réponse, hein, à cet amour sans nom de Dieu. En 1941, elle participe à la vendange dans la plantation de Gustave Thibon. Elle récite le pater en grec. Le pater, ça c'est essentiel à la religion chrétienne, hein, comme le disait déjà Rousseau ou d'autres. Hein. Le pater en grec chaque jour avant le travail et même parfois dans la vigne. Eh bien, c'est la première fois de sa vie qu'elle priait, car elle craignait en effet le pouvoir de suggestion de la prière. Parfois aussi, pendant cette récitation, encore plus important ici, hein, parfois aussi, pendant cette récitation, qu'elle répétait donc, ou à d'autres moments, écrit-elle au père Perrin, le Christ est présent en personne. Mais d'une présence infiniment plus réelle, plus poignante, plus claire et plus pleine d'amour que cette première fois où il m'a prise. Encore plus, hein, et de manière répétée. Nous avons donc ici affaire à une expérience qui s'étend sur plusieurs années, qui débute donc à l'été 35 au Portugal, et qui, après l'expérience décisive de novembre 38, se poursuit donc dans les vignes de Gustave Thibon. Je vous ai dit l'importance du chant, la voie au Portugal, à Solém. Assise, donc c'est là plutôt la beauté esthétique, hein, la beauté de la chapelle, la simplicité de cette chapelle. Et elle se met à genoux. Alors, son éclectisme, son syncrétisme, là c'est une caractéristique un peu difficile pour nous, chrétiens, catholiques. Elle lutte contre l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, elle le trouve aussi dans le christianisme, et dans le catholicisme, et dans l'Église. Elle lutte contre toute forme d'idolâtrie. Dans une lettre qu'elle écrit à Perrin, « L'amour de Dieu et le malheur », elle dit ceci. Dans le domaine de la souffrance, on va essayer de définir ce qu'elle entend par le malheur. Hein, c'est vraiment un concept pour elle. Dans le domaine de la souffrance, le malheur est une chose à part, spécifique, irréductible. Le malheur s'empare de l'âme et la marque d'une marque qui n'appartient qu'à lui, la marque de l'esclavage. Les anciens qui connaissaient bien la question de l'esclavage disaient « Un homme perd la moitié de son âme le jour où il devient esclave. » Le malheur est inséparable de la souffrance physique et pourtant il en est tout à fait distinct. Il y a toujours une souffrance physique dans le malheur, mais ce n'est pas la souffrance physique le malheur. Il doit être là, mais ce n'est pas ça le malheur. Le malheur est un déracinement de la vie, un équivalent plus ou moins atténué de la mort, rendu irrésistiblement présent à l'âme par l'atteinte de la douleur physique ou par l'appréhension immédiate de la douleur physique. Si la douleur physique est tout à fait absente, il n'y a pas de malheur pour l'âme. Il n'y a ici-bas que la douleur physique et rien d'autre qui ait la propriété d'enchaîner la pensée. Alors j'ai dit au début qu'elle était de santé fragile, en effet, elle a beaucoup souffert de maux de tête, hein. Elle a beaucoup souffert lors de ce travail en usine, elle était épuisée, elle rentrait à la maison, elle ne savait plus penser à rien, elle qui était vraiment un cerveau qui pense tout le temps, hein. Elle se rendait compte que eh bien, ces milliers de gestes qu'elle avait faits l'empêchaient de penser. Elle était trop fatiguée, trop souffrante. Il n'y a ici-bas que la douleur physique qui est la propriété d'enchaîner la pensée. Je ne sais pas si vous avez déjà été gravement malade, mais en effet, souvent, on devient presque nombriliste sur sa propre souffrance ou sur l'appréhension de souffrir. Hein. La présence du malheur produit un état aussi violent, celui qui est dans le malheur est dans un état violent. Un état aussi violent que si un condamné était contraint de regarder pendant des heures la guillotine qui va lui couper le cou. Voilà, vous voyez la guillotine, on vous dit, ben, vous allez, on va vous couper le cou. Vous devez regarder ça. Ben, ça, c'est une analogie. Les êtres humains peuvent vivre ainsi 20 ans, 50 ans, dans cet état violent. On passe à côté d'eux sans s'en apercevoir. Quel homme est capable de les discerner si le Christ lui-même ne vient pas regarder par ses yeux ce pauvre homme qui est dans le malheur, cette pauvre femme? On remarque seulement que ces gens-là ont parfois un comportement étrange et on blâme ce comportement. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter quand même, c'est pas ça qu'il faut faire, surtout quand on est un peu pauvre, malheureux, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. On comprend pas. Il n'y a vraiment malheur que si l'événement qui a saisi une vie la déracine, l'atteint dans toutes ses parties, sociales, psychologiques, physiques. Le facteur social est essentiel. Il n'y a pas vraiment de malheur là où il n'y a pas, sous une forme quelconque, d'échéance sociale. Donc l'expérience ouvrière de cette déchéance sociale, ou l'appréhension d'une telle déchéance. La grande énigme de la vie humaine, ce n'est pas la souffrance, c'est le malheur. Alors elle va dire trois choses. Deux, pour elle, ne sont pas étonnantes, ce qui est des gens qui font souffrir les autres, ce qui est des maladies, mais il y a un troisième qui l'étonne. Il n'est pas étonnant que des innocents soient tués, torturés, chassés de leur pays, réduits à la misère ou à l'esclavage, enfermés dans des camps ou des cachots. Ce n'est pas étonnant, puisqu'il se trouve des criminels pour accomplir ces actions. Donc c'est normal, entre guillemets, puisqu'il y a des gens pour le faire aux autres, donc voilà. On ne va pas s'étonner de ça. Il n'est pas étonnant non plus que la maladie impose de longues souffrances qui paralysent la vie et en font une image de la mort, puisque la nature est soumise à un jeu aveugle de nécessité mécanique. Mais il est étonnant que Dieu ait donné au malheur la puissance de saisir l'âme elle-même des innocents et s'en emparer en maître souverain. Dans le meilleur des cas, celui que marque le malheur, dans le meilleur des cas, ne gardera que la moitié de son âme. Ceux à qui il est arrivé un de ces coups, après lesquels un être se débat sur le sol comme un ver à moitié écrasé, ceux-là n'ont pas de mots pour exprimer ce qui leur arrive. Ils sont muets. Voilà. Ils sont comme un ver coupé en deux, là, à moitié écrasé. Le monde est un texte avec de multiples significations. Pour pouvoir le déchiffrer, il faut faire l'expérience du malheur et celui de la beauté. Le malheur et la beauté sont les deux seules voies par lesquelles Dieu peut se communiquer à l'âme. Ce sont les deux seuls poignards qui peuvent percer l'âme et l'atteindre jusqu'au fond. Voilà, ça c'est sa conception de la vie humaine comme danger de malheur. Alors, sa théologie, par rapport à cette idée philosophique, si on veut, philosophico-socio-politique, du malheur, voilà, par rapport à la religion maintenant. Bien que la foi catholique lui paraisse de toutes les religions la plus pleine de lumière, elle ne se prive pas d'élaborer une théologie téméraire. Là, la théologie, vous allez voir, elle en fait à sa guise, Toute cette théologie libre constitue d'ailleurs l'essentiel des cahiers de Simone, avec des intuitions extrêmement puissantes, mais parfois assez hérétiques, assez déviantes, et parfois très intéressantes, même dans cette déviance d'ailleurs. Pour elle, il n'y a pas le point de vue chrétien et les autres points de vue. Il y a seulement la vérité et l'erreur. Non pas ce qui est chrétien est vrai et ce qui n'est pas chrétien est faux, non, l'inverse. Tout ce qui est vrai est chrétien. Tout ce qui est vrai est chrétien. Au fond, il n'y a que le christianisme et l'idolâtrie. Le christianisme vrai, profond, et l'idolâtrie. Toutes sortes de formes d'idolâtrie. Le moi et le social sont les deux idoles principales. L'égoïsme personnel et puis l'organisation puissante de la société par quelques personnes là, qui veulent le pouvoir. Il n'y a que la vraie conception de la vie essentiellement chrétienne et la fausse centrée sur le « je » ou sur le « nous ». Sa théologie est à la fois très libre philosophiquement et orientée en fonction de sa propre pensée. Par exemple, elle ne considère jamais le Christ glorieux, mais uniquement la faiblesse du Christ, sur laquelle elle a des pages admirables. La croix est au centre de sa pensée, tandis que la résurrection la gênerait plutôt. Qu'est-ce qu'on va faire avec la résurrection? C'était un petit peu aussi une chose que j'avais déjà un peu vue chez Blondel, qui parle beaucoup plus de l'incarnation, lui, pas de manière aussi dramatique, mais de l'incarnation, un peu de la croix, mais assez peu finalement de la valeur rédemptrice de la résurrection elle-même, des mystères glorieux. Elle arrive parfois à des conceptions étranges. Sa théologie se présente, hors de tout souci strictement dogmatique, comme une construction philosophique usant largement des symboles qui se réfèrent aussi bien à Platon, à l'hindouisme qu'à l'évangile. Si c'est vrai que ça vient de l'hindouisme ou de Platon, ben c'est chrétien. Elle se désintéresse complètement de l'exégèse historico-critique, évidemment. Elle prend les textes et elle va tout de suite au sens profond. Arrêtons-nous un instant au Christ de Simone Veil. Il est bien sûr l'homme de douleur. Elle ne peut contempler Jésus sur la croix. sans être saisi. Son regard est vissé à l'abaissement de la kénose. Le contact avec le Christ est une identification, moins par compassion que par assimilation. Alors elle dit ceci, hein, que Jean-Marie m'avait déjà dit une fois ou l'autre, qui est absolument incroyable. « Toutes les fois que je pense à la crucifixion du Christ, je commets le péché d'envie. » Quand elle voit le Christ souffrir, elle se dit « c'est ça que je devrais faire. » Pour elle, la croix signifie tout d'abord le châtiment de l'innocent réputé comme un malfaiteur. À travers l'innocence désarmée, le péché s'est mué en malheur. Le malheur ne se réduit pas à la souffrance physique, je vous l'ai dit. C'est une expérience de dégradation sociale absolue. Au malheur appartient, ça c'est vraiment une expérience hein, qu'on fait aussi parfois dans le quart-monde et tout ça, au malheur appartient la répulsion de soi, la déchéance, la honte. Le malheur écrase, il broie. Or le Christ a éprouvé le malheur spécifique. Il était un malheureux, un condamné de droit commun, assimilé à un criminel. Le Christ a été parfaitement délaissé. Et c'est là que le Christ est divin. Au fond du malheur, quand Dieu est absent. Ce ne sont pas les miracles, c'est la crucifixion qui apporte la preuve immédiate de la divinité du Christ. Le Christ de Simone Veil est l'archétype du malheur. Il ne pouvait être secouru par personne, car le malheur de Dieu est sans commune mesure. Alors, autre phrase impressionnante, il aurait fallu être un autre Christ pour avoir pitié du Christ. Personne n'a eu pitié du Christ. Nous non plus d'ailleurs. Pas suffisamment, enfin. On ne comprend pas son malheur. Il faudrait être un autre Christ pour avoir pitié du Christ. Le malheur culmine à la croix. Mais inversement, la croix transfigure le malheur. Seule la contemplation de la croix permet de consentir au vrai malheur. Elle apprend à aimer Dieu dans le malheur. La croix est divine parce qu'elle est l'amour suprême dans le suprême abandon. La croix est le plus beau des arbres. Il est notre patrie. Le malheur déchire le voile. Et donc, elle a tout un commentaire de Job aussi, très impressionnant. Et c'est la connaissance de la beauté du monde qui rend précisément déchirant le malheur. Alors, son rapport à l'Église et à Israël et au sacrement. Elle écrit une lettre à Schumann sur les sacrements, en disant « Toute la partie médiocre de l'âme répugne au sacrement. » Pour elle, le sacrement est la plus belle chose que l'Église possède, et, ou plutôt ne possède pas, justement. Donc, tant elle est la dépositaire, elle ne possède pas les sacrements. Elle doit les donner. Pour elle, les dogmes de la foi ne sont pas des choses à affirmer, mais des choses à regarder, à contempler, avec respect et amour. Après l'emprise du Christ sur elle, elle ne se demandait jamais si Jésus a été ou non une incarnation de Dieu. Mais en fait, elle était incapable de penser à lui sans le penser comme Dieu. En dépit de sa distance envers les dogmes, donc, qu'elle considère comme voilà, de petites propositions intéressantes, mais il ne faut pas affirmer ou nier, tout ça, ça dégrade les mystères de la foi. Hein, d'en faire des questions de logique et d'affirmation, et si on n'y croit pas, eh bien on est en dehors, et tout ça. En dépit de sa distance vis-à-vis des dogmes, elle estime quand même que la fonction de l'Église est importante comme conservatrice collective du dogme. Parce que le dogme permet de réfléchir. Elle déclare n'avoir jamais cherché Dieu, mais Dieu peut s'ouvrir de lui-même. La contribution de l'homme se résume à une attitude de pure attention, de pure attente. On rabaisse les mystères de la foi lorsqu'on en fait des objets d'affirmation ou de négation, comme s'il s'agissait de logique, hein, ou d'idéologie, justement, alors qu'il s'agit de les contempler. Et vous contemplez ce que vous voyez, c'est tout. Nonobstant son ouverture aux autres textes religieux, parce que donc elle mélange, enfin de notre point de vue à nous, elle mélange la Bhagavad Gita, et puis Platon, qu'elle aime beaucoup, et puis voilà. eh bien, elle s'est toujours considérée comme étant chrétienne, quant à la conception de la vie. Elle a eu l'impression d'être née à l'intérieur du christianisme. Étrange, hein? Elle n'a pas été baptisée. Elle en parle d'ailleurs au père Perrin en disant c'est en vous rencontrant que pour la première fois, je me pose la question de « Tiens, est-ce que je pourrais être baptisé ?» Avant, elle rencontrait des tas de religieux et tout, ou d'autres chrétiens. Elle ne s'était jamais posé la question « Est-ce que je devrais me faire baptiser ?» Non, elle était chrétienne. Elle était chrétienne. Mais d'autre part, elle s'est rapprochée d'une certaine forme de christianisme. Dans sa lettre à Bousquet, elle distingue un avant et un après, quand même, à partir du Portugal, etc. Mais qu'elle ait été toujours chrétienne ou le soit devenue d'une certaine façon, il est certain qu'elle se considère comme chrétienne et veut être considérée comme telle. À Maurice Schumann, elle écrivait « Quoique étant hors de l'Église, alors ce sont des formules un peu paradoxales, hein, quoique étant hors de l'Église, ou plus exactement sur le seuil, je ne puis m'empêcher d'avoir le sentiment que je suis quand même au-dedans. » C'est clair que je suis dehors, hein, mais je suis dedans aussi. Elle le confirme dans sa lettre suivante. « À tort ou à raison, je ne crois pas être hors de l'Église, au sens où elle constitue une source de vie sacramentelle. » Comme source de vie sacramentelle, elle est dans cette Église qui est source de vie sacramentelle, mais elle est en dehors en tant que réalité sociale. Au père Couturier, donc, l'initiateur de la prière pour l'unité des chrétiens, autre formule paradoxale, les liens qui m'attachent à la foi catholique deviennent de plus en plus forts. Mais en même temps, les pensées qui m'éloignent de l'Église gagnent elles aussi en force et en clarté. Je ne vois pas comment je peux éviter de conclure que j'ai pour vocation d'être chrétienne hors de l'Église. D'être chrétienne hors de l'Église. Elle est vraiment chrétienne, elle est vraiment hors de l'Église. Voilà, ça c'est sa vocation. L'hospitalité intellectuelle de Simone Veil a cependant une limite qui est très étrange. C'est Israël lui-même. Vis-à-vis d'Israël, elle est vraiment sans concession. Elle maltraite le peuple élu, rejoignant Marcion. La partie hébraïque de la religion chrétienne est à ses yeux une souillure plus ineffaçable encore que la contamination romaine. Alors, réflexion, en introduisant une séparation radicale entre le Dieu Père de l'Évangile et le Yahvé des Hébreux, pas du tout le même Dieu, hein, pour elle, ça c'est Marcion, elle dit, je suis exclu de la communauté catholique, je suis une hérétique, puisque je pense ça. Curieux paradoxe quand même que cette juive éprise de l'Évangile et qui se met hors de l'Église par son refus d'Israël. Parce que le chrétien doit admettre l'Ancien Testament. Ça, pour être chrétien, il faut admettre l'Ancien Testament. Eh bien, elle n'admet pas si on fait l'Ancien Testament, et donc elle sait bien qu'elle est exclue de l'Église parce qu'elle n'est pas solidaire de son propre peuple. Quand même paradoxal. Hein? Israël est maudit pour cela même qu'il se croyait le peuple élu. Comme si cette idée d'élection divine n'était pas elle-même idolâtre. Nous sommes le peuple élu. Et tous les autres sont des païens idolâtres. C'est se prendre soi-même pour Dieu. Par un retournement violent, elle accuse le peuple juif du crime même dont il accablait les autres peuples, celui de l'idolâtrie. Intéressant à penser aussi dans la situation actuelle. Hein. Mais l'Église aussi en ramasse une volée de bois vert parce que l'Église, la puissance que s'arroge l'Église est exorbitante. Le Christ a repoussé la tentation du diable, mais son épouse y a succombé. D'ailleurs, dans un autre texte, elle se demande si ce diable, ce n'est pas le Dieu des Hébreux, justement, auquel le Christ, justement, a dit non. Vous voyez que donc ces exégèses sont un peu... Voilà. La tentation repoussée par Jésus, l'Église y a succombé. Le texte de l'Évangile, le pater, les sacrements conservent cependant leur efficacité rédemptrice. Les sacrements sont au centre de la réalité ecclésiale. Elle trouve que l'Église devrait donner les sacrements, donner, sans condition, à mettre des conditions aux sacrements même mettre un ordre dans les sacrements, qu'il faut commencer par le baptême. Elle, elle veut commencer par l'Eucharistie. Parce qu'elle a toute une philosophie du pain, du vin, fruit de la terre, du travail, hein, etc., de manger, etc. Bon, eh bien, il faudrait qu'on puisse offrir l'Eucharistie à tout le monde. C'est le grand symbolisme divin qui se communique et dont l'Église est dépositaire, mais pas propriétaire. Voilà. Alors, conclusion, avant de lire le texte que je vous ai donné. La pesanteur et la grâce, c'est un ouvrage qu'on met sous le nom de Simone Veil, mais qui a été publié posthume par Gustave Thibon. Lorsqu'à Marseille, elle a dû s'enfuir pour New York, bon, ben, elle a laissé tout un paquet de papiers à Gustave Thibon, qui les a édités. La pesanteur et la grâce. En effet, ce titre est bien choisi, hein. La pesanteur de la misère humaine, du malheur humain, et la grâce qui, à travers cela, eh bien, nous élève vers Dieu, nous met en contact avec le Christ. C'est évidemment un christianisme d'enfouissement. Hein, on se cache, hein, on va avec les plus pauvres. Ce n'est pas le panchristisme majestueux que, malgré tout, par exemple, Blondel défend, et encore plus Théa de Chardin, comme nous allons voir la prochaine fois. Veil, par rapport à Bergson, eh bien, rencontre le Christ comme un mystique, mais un mystique du malheur. Hein. Et donc, elle n'a pas du tout les accents de Blondel ou de Théa. Alors, tout ça pour dire que, quand je parlais des portraits, hein, philosophiques du Christ, c'est pas pour dire qu'un portrait est bon et l'autre est mauvais. Hein. C'est pour dire qu'il y en a tellement que, je crois, il faut aussi... écouter ce que dit Blondel ou Théard, et aussi ce que dit Veil, et aussi ce que dit Kierkegaard, et aussi ce que dit, etc. Évidemment, selon les sensibilités, les expériences, eh bien, chacun peut se sentir plus proche de l'un ou de l'autre, bien sûr. Mais je crois qu'il y a quelque chose de profondément chrétien, catholique, hein, à admettre qu'il y ait des visions très multifacettes, si on veut, du Christ. Alors, on va lire le texte. Après mon entrée, après mon année d'usine, donc 34-35, avant de reprendre l'enseignement, mes parents m'avaient emmené au Portugal. Et là, je les ai quittés pour aller seul dans un petit village. J'avais l'âme et le corps en quelque sorte en morceaux. Ce contact avec le malheur avait tué ma jeunesse. Jusque-là, je n'avais pas eu l'expérience du malheur, dit-elle, hein, mais aussi profondément pas. Sinon, le mien propre, qui, étant le mien, me paraissait de peu d'importance, et qui d'ailleurs n'était qu'un demi-malheur. Mais ces ennuis de santé, bon, étant biologiques et non sociales. Je savais bien qu'il y avait beaucoup de malheurs dans le monde. J'en étais obsédé, mais je ne l'avais jamais constaté par un contact prolongé, comme cette année à l'usine. Étant en usine, confondu aux yeux de tous et à mes propres yeux avec la masse anonyme, le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme. Merci Philippe qui m'apporte de l'eau. Rien ne m'en séparait, car j'avais réellement oublié mon passé. Quand on travaille en usine, hein, on oublie son passé et on n'attend rien de l'avenir. On est sur sa machine, rivé à sa machine, et on fait des gestes dégradants, pouvant difficilement imaginer la possibilité de survivre à ces fatigues. On rentre chez soi en disant « je suis encore vivant ». Ce que j'ai subi là m'a marqué d'une manière si durable qu'aujourd'hui encore, lorsqu'un être humain, quel qu'il soit, dans n'importe quelle circonstance, me parle sans brutalité, gentiment, je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression qu'il doit y avoir une erreur. Et que l'erreur va sans doute, malheureusement, se dissiper. C'est justement cette expérience du malheur, hein, comme conscience de la déchéance de soi, du mépris de soi, et donc, si on vous traite bien, c'est que vous avez une certaine valeur, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Hein. Le malheureux ne croit pas à sa propre valeur. Il ne croit pas qu'on lui doit le respect. J'ai reçu là pour toujours la marque de l'esclavage, dans cette année d'usine. Comme la marque au fer rouge que les Romains mettaient au front de leurs esclaves les plus méprisés, au front. Depuis, je me suis toujours regardé comme une esclave. Étant dans cet état d'esprit et dans un état physique misérable, je suis entré dans ce petit village portugais qui était hélas très misérable aussi, seul, le soir, sous la pleine lune, le jour même de la fête patronale. C'était au bord de la mer. Les femmes des pêcheurs faisaient le tour des barques en procession, portant des cierges et chantaient des cantiques, certainement très anciens, d'une tristesse déchirante. Rien ne peut en donner une idée. Je n'ai jamais rien entendu de si poignant, sinon le chant des haleurs de la Volga. Là, j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves. Ce que Nietzsche disait aussi, mais de manière négative. Ici, c'est de manière positive, si on veut. Que des esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi, parmi les autres. En 1937, j'ai passé à Assise deux jours merveilleux, là, étant seul dans la petite chapelle romane du XIIe siècle, de Santa Maria degli Angeli, incomparablement merveilleuse de pureté, où Saint François a prié bien souvent, quelque chose de plus fort que moi m'a obligé, pour la première fois de ma vie, à me mettre à genoux. En 1938, j'ai passé 10 jours à Solesmes, du dimanche des Rameaux au mardi de Pâques, en suivant tous les offices. J'avais des maux de tête intenses. Chaque son me faisait mal comme un coup, et un extrême effort d'attention me permettait de sortir hors de cette misérable chair, de la laisser souffrir seule tassée dans un coin, et de trouver une joie pure et parfaite dans la beauté inouïe du chant et des paroles. Cette expérience m'a permis par analogie de mieux comprendre la possibilité d'aimer l'amour divin à travers le malheur. La beauté de ses chants, alors que son corps souffrait, tassé dans son coin, comme elle dit. C'est écrire aussi. Il va de soi qu'au cours de ses offices, la pensée de la passion du Christ est entrée en moi une fois pour toutes. Il y avait là un jeune Anglais catholique qui m'a donné pour la première fois l'idée d'une vertu surnaturelle des sacrements. Par l'éclat véritablement angélique dont il paraissait revêtu après avoir communié. Le hasard a fait de lui, pour moi, vraiment un messager, un ange, un messager, car il m'a fait connaître l'existence de ces poètes anglais du XVIIe siècle qu'on nomme métaphysiques. Plus tard, en les lisant, j'y ai découvert le poème dont je vous ai lu une traduction malheureusement bien insuffisante, celui qui est intitulé « Love, amour ». Je l'ai appris par cœur. Alors, je vais quand même le lire, parce qu'il me semble que ça vaut la peine. L'amour m'accueillit. Pourtant, mon âme recula, coupable de poussière et de péché. Mais l'amour clairvoyant, me voyant hésiter, dès ma première entrée, se rapprocha de moi, demandant doucement s'il me manquait quelque chose. Un invité, répondis-je, digne d'être ici. Voilà ce que j'attends. L'amour dit, tu seras lui. Moi, le méchant, l'ingrat, ah, mon aimé, je ne peux pas te regarder. L'amour prit ma main et répondit en souriant, qui a fait ses yeux, sinon moi? C'est vrai, Seigneur, mais je les ai souillés. Que ma honte aille où elle mérite. Et ne sais-tu pas, dit l'amour, qui en a pris sur lui le blâme? Mon aimé, alors je servirai. Il faut t'asseoir, dit l'amour, et goûter à mes mets. Ainsi je m'assis et je mangeai. Celui qui en a pris le blâme, ben, c'est le Christ, évidemment. Et le repas, ben, c'est le repas eucharistique. Je l'ai appris par cœur. Souvent, au moment culminant des crises veillantes de maux de tête, je me suis exercé à le réciter en y appliquant toute mon attention et en adhérant de toute mon âme à la tendresse qu'il enferme. Je croyais le réciter seulement comme un beau poème. Ça, c'est un mot qui vient souvent, un beau poème. Mais à mon insu, cette récitation avait la vertu d'une prière. C'est au cours d'une de ces récitations que, comme je vous l'ai dit, le Christ lui-même est descendu et m'a prise. Dans mes raisonnements sur l'insolubilité du problème de Dieu, je n'avais pas prévu la possibilité de cela. D'un contact réel de personne à personne ici-bas entre un être humain et Dieu. Je n'avais pas prévu ça. J'avais vaguement entendu parler de choses de ce genre, mais je n'y avais jamais cru. L'esprit rationaliste très critique. Dans les Fioretti, les histoires d'apparition me rebutaient plutôt qu'autre chose, comme les miracles dans l'Évangile. On a vu plusieurs philosophes qui avaient de la peine avec les miracles de l'Évangile. D'ailleurs, dans cette soudaine emprise du Christ sur moi, ni les sens ni l'imagination n'ont eu aucune part. Voilà, donc ce n'est pas une consolation sensible, dit-elle. J'ai seulement senti à travers la souffrance, la présence d'un amour analogue à celui qu'on lit dans le sourire d'un visage aimé. Imaginez sur un lit de souffrance, bien quelqu'un que vous aimez, qui vous sourit. C'est ça, la présence. Je n'avais jamais lu les mystiques, parce que je n'avais jamais rien senti qui m'ordonna de les lire. Dans les lectures aussi, je me suis toujours efforcé de pratiquer l'obéissance. Il n'y a rien de plus favorable au progrès spirituel, car je ne lis autant que possible que ce dont j'ai faim, au moment où j'en ai faim. Et alors, je ne lis pas, je mange. Elle devait dévorer les bouquins d'une manière impressionnante. Dieu m'avait miséricordieusement empêché de lire les mystiques, afin qu'il me fût évident que je n'avais pas fabriqué ce contact absolument inattendu. Pourtant, j'ai encore à moitié refusé, non mon amour, mais mon intelligence. Car il me paraissait certain, et je le crois encore aujourd'hui, qu'on ne peut jamais trop résister à Dieu si on le fait par pur souci de la vérité. Le Christ aime qu'on lui préfère la vérité, car avant d'être le Christ, il est la vérité. Si on se détourne de lui pour aller vers la vérité, on ne fera pas un long chemin sans tomber dans ses bras. Alors ça, c'est une allusion à quelque chose qu'on a vu ensemble, je crois. C'est Dostoïevski qui dit « Si j'avais à choisir entre le Christ et la vérité, je choisirais le Christ. » Et pour lui, la vérité, c'est sans doute la vérité philosophique ou théologique des catholiques, sans doute, pour lui. Mais elle met les deux ensemble. Oui, elle choisit le Christ, mais elle choisit la vérité, mais c'est le Christ. C'est après cela que j'ai senti que Platon est un mystique et que toute l'Iliade est baignée de lumière chrétienne et que Dionysos et Osiris sont d'une certaine manière le Christ lui-même. Et mon amour en a été redoublé. Je ne me demandais jamais si Jésus a été ou non une incarnation de Dieu, mais en fait j'étais incapable de penser à lui sans le penser comme Dieu. Au printemps 40, j'ai lu la Bhagavad Gita. Chose singulière, c'est en lisant ces paroles merveilleuses et d'un son tellement chrétien mis dans la bouche d'une incarnation de Dieu que j'ai senti avec force que nous devons à la vérité religieuse bien autre chose que l'adhésion accordée à un beau poème. Une espèce d'adhésion bien autrement catégorique. Pourtant, je ne croyais pas pouvoir même me poser la question du baptême. Je sentais que je ne pouvais pas honnêtement abandonner mes sentiments concernant les religions non chrétiennes et concernant Israël. Pas les sentiments positifs, mais même négatifs, quand elle savait qu'ils n'étaient pas bons pour le catholique. Je ne pouvais pas abandonner mes sentiments concernant les religions chrétiennes, concernant Israël, et en effet, le temps et la méditation n'ont fait que les renforcer, et je croyais que c'était un obstacle absolu. Je n'imaginais pas la possibilité qu'un prêtre pût même songer à m'accorder le baptême. Si je ne vous avais pas rencontré, le père Perrin, dominicain, je ne me serais jamais posé le problème du baptême comme un problème pratique. Pendant toute cette progression spirituelle, je n'ai jamais prié. Je craignais le pouvoir de suggestion de la prière, ce pouvoir pour lequel Pascal la recommande. Alors ici, je crois qu'elle fait allusion au pari de Pascal. Pascal qui dit, on va prier, et si Dieu existe, donc c'est bien, et s'il n'existe pas, on ne perd rien. Donc c'est quitte ou double, et c'est toujours double ou rien, mais si c'est rien, on n'a rien perdu non plus. Elle ne veut pas du tout de ça. C'est une personne trop de conviction que pour adhérer à un truc probabiliste. Donc la méthode de Pascal me paraît une des plus mauvaises possibles pour arriver à la foi. Curieux, Et ce Braunschweig, qui n'était pas croyant, elle l'a rencontré donc à Normal Sup. Il était l'éditeur des pensées de Pascal. Le contact avec vous n'a pu me persuader de prier. Au contraire, le danger me paraissait d'autant plus à craindre que j'avais à me méfier aussi du pouvoir de suggestion de mon amitié pour vous. J'allais prier par amitié pour vous. pas possible. En même temps, j'étais très gêné de ne pas prier et de ne pas vous le dire. Et je savais que je ne pouvais pas vous le dire sans vous induire tout à fait en erreur à mon égard. Un peu compliqué tout ça. Hein? À ce moment, je n'aurais pas pu vous faire comprendre. Jusqu'en septembre dernier, septembre 1941, elle écrit ça en 1942, hein, j'ai mis ta date je crois. Oui, elle écrit ça à la mi-mai 42. Donc, jusqu'en septembre 41, il ne m'était jamais arrivé dans ma vie de prier, même une seule fois. Du moins au sens littéral du mot. Jamais je n'avais tout haut ou mentalement adressé des paroles à Dieu. Voilà ce qu'elle nomme la prière, hein, s'adresser à Dieu. Jamais je n'avais prononcé une prière liturgique. Il m'était arrivé parfois de me réciter le Salve Regina, mais seulement comme un beau poème. Voilà, je vous laisse à votre réflexion avec Simone Veil. J'espère que vous avez un peu goûté à ce personnage, quand même très mystérieux, hein, très difficile à comprendre, très stimulant à la lecture, très stimulant, un peu bousculant. Mais je reviens à ma toute première citation, hein. Une grande philosophie est celle qui introduit une inquiétude qui ouvre un ébranlement. Moi, quand je lis Simone Veil, je me dis, ben, je ne suis rien à côté d'elle. Hein. Rien, je ne suis pas chrétien. Moi. Comment est-ce que je vais saisir enfin, la radicalité qu'elle propose là? C'est assez stupéfiant, je trouve. Merci beaucoup.